Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de ce journal, face à l'inquiétude et la poursuite des combats dans le sud Kivu, Volker Turk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, appelle à une désescalade immédiate dans l'est de la RDC et au retrait des troupes rwandaises du sol congolais. En Ituri, les autorités de proximité sont mises à contribution de la riposte contre Ebola. Gouvernement provincial et Africa, CDC renforce la sensibilisation de communautés pour freiner la propagation de la maladie. L'invité de ce journal est Papika Sereka, analyste de crise et de conflits dans l'est de la RDC. Il revient sur les retombées de la rencontre de gouverneurs consacrée à la lutte contre les ADF. Christian Makassing à la présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Les hauts commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, expriment sa profonde inquiétude face aux combats qui se poursuivent dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Ces affrontements opposant le rebelle du M23 aux FRDC dans les territoires de Mwenga et de Fizi sont à l'origine de l'aggravation de la crise humanitaire. Une situation qui juge préoccupante, il appelle à une désescalade immédiate et au retrait de troupes rwandaises du sol congolais. Le papier de Ronelly Timonera, rendu par Jean Gandou.
Dans un communiqué publié jeudi, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est alarmé de l'intensification des combats entre les FRDC et les rebelles du M23, soutenus par les forces de défense rwandaises dans les territoires de Fizi et Mwenga au sud Kivu. Selon lui, l'utilisation d'armes lourdes dans des zones habitées a causé des morts, des blessés et la destruction d'habitations tout en provoquant de nouveaux déplacements des populations. Volker Turk appelle les parties en conflit à cesser immédiatement les attaques contre les civils. Il exhorte également le Rwanda à mettre fin à son soutien au M23 et à retirer ses troupes du territoire congolais. Il invite par ailleurs les autorités congolaises à poursuivre les efforts de désarmement des groupes armés. Le haut commissaire demande enfin aux acteurs régionaux et à la communauté internationale de soutenir les initiatives diplomatiques afin d'éviter une nouvelle escalade de la violence dans l'est de la RDC. Cette déclaration intervient alors que le M23 affirme avoir pris le contrôle de Point Zéro, une information rejetée par les FRDC qui évoque un retrait tactique destiné à protéger les populations civiles.
Direction Nord Kivu, la situation sécuritaire et humanitaire demeure préoccupante ces jeudis dans le village de Kalungé, Kalembe, Luanga et leurs environs, situés dans le groupement des Kisimba dans les territoires de Walikale et des Bachali Mukoto dans les territoires de Masisi. Selon des sources locales, de violents affrontements ont opposé dans la nuit la F-523 à une coalition de groupes Wazalendo dans la zone. Ronelly Timbonera pour les détails.
Depuis plus de deux semaines, cette zone frontalière entre Masisi et Walikale est le théâtre des violences armées récurrentes. Un calme relatif mais fragile est observé depuis la matinée de ce 9 juillet, indiquent plusieurs notables locaux. D'après ces sources, les combats ont éclaté vers 23 heures lorsque les Wazalendo ont lancé des attaques simultanées contre les positions de l'FSA-M23 dans le village de Kalembe, Kalongé, Kivuye et Mpati. Les échanges de tirs à l'arme lourde et légère se sont poursuivis jusqu'aux environs des 4 heures du matin, provoquant un mouvement de panique au sein de la population contrainte de se confiner à domicile. Quelques familles ont néanmoins quitté leurs habitations pour trouver refuge, notamment aux abords du centre de santé de Kalembe. Elles seraient retournées chez elles après le retrait des assaillants et l'accalmie observée au lever du jour. Malgré ces retours au calme relatif, la crainte reste vive au sein de communautés locales. Ces affrontements surviennent quelques jours après une série d'incidents similaires dans la zone. La semaine dernière, plusieurs habitations civiles avaient été incendié à Kasake, Changi et Rukenge lors d'opérations attribuées à l'AFC-M23. Des sources coutumières de Bachali Mokoto évoquent un bilan d'au moins 26 civils tués, certains ayant péri dans l'incendie de leur maison ou à la suite des frappes des drones.
Restant au Nord Kivu, trois militaires des FRDC ont été condamnés chacun à 20 ans de prison pour les viols collectifs d'une femme. Le verdict a été rendu à l'issue d'une audience foraine organisée il y a deux jours dans le village de Kimbulu en territoire des Lubero. Cette décision s'inscrit dans la lutte contre l'impunité des auteurs de violations de droits humains au sein de forces de défense et de sécurité. Les détails avec Martial Papimoukeba.
Les trois militaires condamnés appartiennent à la 21e brigade des défenses principales des IFRDC. Le tribunal militaire de garnison de Boutembo-Lubero les a reconnus coupables du viol collectif d'une femme de 28 ans dans le village de Kimbulu en territoire de Lubero. Les faits remontent dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Selon la justice, la victime regagnait son domicile après son travail lorsqu'elle a été agressée. Un premier militaire a été arrêté à la suite de la dénonciation de la victime. Lors de l'audience en flagrance, ces déclarations ont permis d'identifier puis d'arrêter des autres militaires poursuivis comme co-auteurs du viol. Le tribunal a également infligé aux condamnés une amende de 250 000 francs congolais chacun pour frais de justice ainsi que le paiement solidaire de 10 000 dollars américains des dommages et intérêts à la victime. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Au Congo central, 17 présumés criminels ont été présentés ce mardi au maire de Matadi, Dominique Kodiambété, à l'issue d'une vaste opération menée par les services de sécurité. Cette intervention s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insécurité grandissante dans plusieurs quartiers de la ville. Les autorités locales, appuyées par la police nationale congolaise, l'ANR, la DGM et les forces armées, promettent de poursuivre les opérations afin de démanteler les réseaux criminels et de renforcer la sécurité des habitants. Élise Kavira.
C'est devant une foule partagée entre soulagement et interrogation que le maire de la ville a présenté les présumés criminels arrêtés après plusieurs jours de traque par la police nationale. Mais pour de nombreux habitants, ce type de scène s'est déjà produit sans résultat concret. Présent sur place, un habitant a exprimé ses inquiétudes.
Est-ce que c'est la première fois qu'on les arrête? Maintenant, nous, on se pose la question, qui les libère à chaque fois? Et pourquoi il n'y a pas de suivi? Bon, on espère que cette fois-ci, on va pas avoir le même visage dehors.
Les autorités se disent déterminés à intensifier cette lutte contre le banditisme urbain. Le maire de Matadi revient sur ces opérations.
Nous neutralisons déjà ces bandits avant qu'ils ne soient dangereux sur le terrain. Vous avez vu les instruments qu'ils utilisent, les armes, les machettes pour opérer sur le terrain. Vous voyez, en fait, 17 personnes, ils vont être déférés directement au niveau de l'auditorat.
Si certains habitants saluent ces arrestations, d'autres insistent cependant sur la nécessité d'un suivi rigoureux des dossiers par la justice. Matadi, Elis Kavira, Radio Okapi.
En Ituri, les autorités politico-administratives sont appelées à jouer un rôle actif dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Elles participent depuis mercredi à une session de formation organisée par le gouvernement provincial avec l'appui d'Africa CDC. Objectif, renforcer la sensibilisation de communautés et lutter contre la désinformation, le fausse rumeur et la méfiance qui freinent la riposte. Isaac Raymond.
Pour les responsables d'Africa CDC, la lutte contre Ebola commence et se termine au sein des communautés, d'où la nécessité d'impliquer davantage les autorités de proximité dans la sensibilisation des populations. Chef des 10 maisons, chef d'avenue, chef de quartier, bourgmestre et administrateur des territoires sont ainsi appelés à relayer les messages de prévention et à encourager un changement de comportement face à l'épidémie. Au cours de cette session, les participants ont également été formés aux techniques de communication afin de mieux lutter contre les fausses rumeurs, la désinformation et les réticences qui freinent les efforts de la riposte, un des formateurs.
Avec l'arrivée d'Ebola, chaque famille, chaque quartier sont en train de pleurer jour après jour. Il est important de pouvoir arrêter le plus tôt possible la transmission de cette maladie qui est meurtrière.
De son côté, le gouverneur militaire de l'Ituri a rappelé que la résurgence d'Ebola constitue une menace sérieuse pour la santé publique ainsi que pour la stabilité économique et sociale de la province. Le général Gabingo Ikasongo a invité les participants à devenir des véritables ambassadeurs de la lutte contre Ebola dans leur communauté.
J'attends de chacun de vous un engagement total. Chaque quartier doit être informé. Chaque famille doit être sensibilisée. Chaque cas suspect doit être signalé rapidement afin d'empêcher toute propagation de la maladie.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
De nombreux enfants de la zone de santé des Masuka, dans les territoires de Luisa au Kasaï central, ne possèdent pas les actes de naissance. Certains parents n'exigent pas et pour les sensibiliser, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance met à la disposition des agents des enfants chargés de la sensibilisation de parents, de motos et autres vélos pour faciliter leur mobilité. L'objectif visé est de permettre aux enfants d'avoir les actes de naissance qui justifient leur filiation. Le point avec André Katendenga Mouloumé.
La zone de santé de Masuka est située à près de 200 km du chef-lieu. Pour atteindre le village, les agents de l'état civil doivent souvent parcourir des longues distances à pied. Dans cette partie de la province, de nombreuses femmes accouchent à domicile ou dans des structures de santé ne disposant pas des services d'enregistrement des naissances. Conséquence, beaucoup d'enfants ne possèdent pas d'acte de naissance, un document pourtant essentiel pour établir leur identité et leur filiation. Les agents de l'état civil sont contraints d'effectuer des longs déplacements afin de rejoindre les officiers habilités à signer les actes établis. Plusieurs enfants grandissent ainsi sans être enregistrés dans les registres officiels. L'UNICEF, en partenariat avec la division provinciale de l'intérieur, a remis mardi 10 motos et 30 vélos aux agents de l'état civil des secteurs de Lusanza, Luachi et Kalonga. Grâce à cette dotation, les équipes pourront accéder plus facilement aux villages les plus enclavés et rapprocher les services de l'état civil et des communautés. L'objectif est de permettre à chaque enfant d'obtenir une identité légale dès sa naissance. Kananga, André Katendengala Mulume, Radio Okapi.
Apprendre la langue des signes pour mieux se comprendre et mieux vivre ensemble, c'est les paris de l'école Espérance pour sourds qui ouvre ses formations au grand public dans la ville de Matadi. Les personnes sourdes font encore face à de nombreux obstacles pour communiquer au quotidien. Pour y remédier, cette école conventionnée catholique, la seule dédiée à l'éducation des enfants sourds dans la ville, mise sur l'apprentissage d'un langage commun entre sourds et entendants. Comment la population réagit-elle à cette initiative? Quel accueil réserve-t-elle à cette opportunité d'apprentissage? Réponse dans ce reportage signé Élise Cavira.
Parler avec les mains n'est pas un réflexe pour tout le monde. Pour une personne entendante, apprendre la langue des signes demande de la volonté, du temps et de la détermination. Mais à Matadi, de plus en plus de citoyens sont prêts à faire cet effort afin de mieux communiquer avec les personnes sourdes. C'est le cas de Christiane Mangitukulu, mère de famille, qui se dit intéressée par les formations proposées à l'église Fatima dans le cadre des activités de l'école Espérance pour sourds.
J'avais attendu après la messe que les formations avaient déjà commencé ici. J'ai vu mon candidat.
D'un autre côté, Émilie Mpassi rappelle que le manque de moyens financiers peut décourager certaines personnes d'apprendre la langue des signes malgré leur bonne volonté.
C'est une belle initiative. Peut-être avec le soutien des partenaires, tout le monde pourra accéder à cette opportunité de formation indépendamment de ses moyens.
Le directeur de l'école Espérance pour sourds, Giscard Massemi, appelle les autorités à soutenir cette initiative afin de faciliter l'accès à la formation et à l'inclusion sociale des personnes sourdes. Matadi, Elis Kavira, Radio Okapi.
La saison sèche s'est fait durement sentir à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Parmi ses conséquences figure la rareté des légumes sur le marché de la ville. Le vendeur explique que la sécheresse a détruit une grande partie des cultures dans le champ où il s'approvisionne. Les quelques légumes encore disponibles se vendent désormais à des prix élevés. Trois bottes de feuilles de manioc appelées sombe peuvent atteindre jusqu'à 5000 francs alors qu'il y a peu, elles coûtaient 1000 voire 1500. Face à cette flambée de prix, de nombreux ménages se disent contraints de modifier leurs habitudes alimentaires au risque de ne plus répondre aux besoins nutritionnels de leur enfant. Une situation qui inquiète plusieurs familles. Reportage de Florence Kizalunga.
Différentes variétés de légumes verts, notamment les amarantes, se font de plus en plus rares sur le marché des Kindu. Les ménagères disent faire face à des sérieuses difficultés pour nourrir leur famille. Rencontré au marché RVA, Jeanne Asakamba témoigne.
Maman, j'achète 3 colis de sombe à 5000 francs. Incroyable mais vrai. Que Dieu nous vienne en aide. Nous qui avons des grandes familles, on ne sait pas comment on va vivre.
Selon le vendeur, cette hausse de prix est directement liée à la baisse de production dans le champ.
Maman,
les sombe dans les champs ont séché, difficile d'en trouver. C'est pourquoi il y a hausse des prix. Pour les chefs de ménage, cette situation représente une charge de plus en plus difficile à supporter.
Pour nous qui vivons au temps du jour, 10 000 francs suffisaient. Je suis maçon, où est-ce que je trouverai 20 000 francs, 30 000 francs par jour pour la ration? Donc c'est compliqué.
À Kindu, un plat de fufu accompagné de sombe, autrefois accessible à tous, tend aujourd'hui à devenir un luxe pour de nombreux ménages. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Les tensions entre les États-Unis et l'Iran ravivent l'inquiétude sur l'approvisionnement mondial en pétrole. Les exportations de brut du Golfe ont de nouveau reculé, faisant crainte d'une hausse des prix d'énergie. La banque Goldman Sachs estime toutefois qu'un retour à la normale est possible d'ici fin juillet si les discussions entre les deux pays aboutissent. Le marché pétrolier reste très sensible à l'évolution de la situation au Moyen-Orient.
L'invité.
Le gouvernement est responsable des services de renseignement du Nord Kivu et de l'Ituri, de la Tchopo, du Haut-Ouélé et du Bas-Ouélé. Se sont réunis du 2 au 4 juillet 2026 à Kisangani. Objectif, renforcer la coordination régionale et les partages de renseignements pour mieux lutter contre les ADF, un groupe armé affilié à l'organisation État islamique. Quelle retombée cette initiative peut-elle avoir sur la sécurité des populations dans l'Est de la RDC? Nous en parlons avec Papi Kasereka, analyste de crise et de conflits dans l'Est de la RDC. Il répond aux questions de Martial Papi Moukeba.
Papi Kasereka, bonjour.
Bonjour.
Les autorités misent sur une meilleure coordination entre les provinces concernées par l'activisme des ADF. En quoi cette approche régionale peut-elle changer la donne dans la lutte contre ces groupes armés?
Je suis d'abord très heureux le fait que les autorités misent sur cette approche parce que nous déjà, lorsque nous avons publié les rapports d'analyse localisée des conflits à Beni, on avait effectivement identifié ce problème de coordination entre les différents acteurs œuvrant dans la protection des civils dans la région de Beni. Et ceci peut être efficace dans la mesure où ça va aider les autorités d'abord à anticiper les menaces des groupes armés parce que ça va permettre qu'il y ait une certaine cartographie des groupes armés, mais aussi de leurs zones d'influence. Mais aussi, ça va aider de comprendre en fait les zones d'influence des groupes armés. Par-delà, ça aidera aussi à orienter les actions de prise de décision parce que vous savez que sur base des renseignements qui sont partagés par exemple à temps réel, si toutes les provinces ont le même renseignement sur les groupes armés, ça va aider à ce qui est la prise de décision stratégique militaire sur le plan diplomatique à temps réel. Donc, et c'est très important parce qu'on fait les opérations sur base des renseignements.
Le partage du renseignement, comme tu viens de le dire, figure parmi les principaux acquis de cette rencontre. Pourquoi est-il si déterminant dans les opérations contre les ADF?
Là, c'est des décisions qui ont été prises en termes de méthodes de travail, en termes de recommandations. Maintenant, ça sera important dans la mesure où si les autorités effectivement arrivent à mettre cela en pratique. Pourquoi? Parce que nous savons, par exemple, les ADF depuis un temps se promènent en petits groupes et ils ont abandonné leur position classique des camps où ils étaient basés. C'est des petits groupes qui opèrent en termes de mode asymétrique. Donc, c'est très important de partager les renseignements parce que ça va aider, par exemple, à couper les sources de financement. Parce que les aides fonctionnent grâce à l'économie illicite. Et donc, si on arrivait à partager les renseignements, par exemple, aller avec des bois qui doivent sortir, on sait que les bois ici appartiennent par exemple aux aides, c'est très important de couper les sources de financement des aides et ceci aura donc un impact, ça va rendre donc les aides plus ou moins inefficaces parce qu'on a coupé leurs sources de financement dès le départ. Du point de vue opérationnel et tactique, c'est aussi important. Nous savons que ça bouge en petits groupes particulièrement pour ce qui concerne les aides. Ceci aura l'impact dans la mesure où les ADF, quand ils opèrent, par exemple, en petits groupes de 20, de 50, c'est très important que les autorités du Nord qui partagent ces informations à temps réel, parce que les gens voient toujours les ADF quand ils se promènent, ils disent qu'ils prennent telle direction, et que de l'autre côté, qu'on essaie de prendre des dispositions militaires, de les attendre, et à ce moment, on peut les prendre dans les filets et les neutraliser. C'est très important de continuer à travailler en synergie pour la plupart des provinces qui sont concernées par le même problème et par le même groupe armé. Il faut anticiper les mouvements des groupes armés et de réduire leur capacité d'action, parce que si on anticipe les menaces des groupes armés, ceci aura comme impact de réduire leur capacité à tuer les civils.
Malgré plusieurs années d'opérations militaires, les ADF continuent de mener des attaques. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles qui empêchent leur neutralisation durable?
Les FARDC font face à plusieurs opérations militaires qui sont au même moment et dans plusieurs régions. Le fait qu'il y a plusieurs opérations militaires, ceci fait en sorte qu'il y ait dispersion des ressources, des moyens de renseignement, mais aussi la logistique. De temps en temps, lorsqu'il y a des réorientations des troupes, ça fait en sorte qu'il y ait des ADF et parfois des fenêtres stratégiques où ils peuvent opérer, des vides sécuritaires, si je peux dire ça ainsi. Le deuxième facteur, c'est la stratégie asymétrique des ADF. Les ADF ont décidé d'opérer, comme je venais de le signer, en petits groupes. Et ceci rend difficile les opérations de traque parce que la zone est très vaste et les ADF connaissent très bien les terrains montagneux, les zones, ils ont grandi, ils connaissent, parce qu'ils se retendent souvent dans des coins les plus reculés ou des zones les plus montagneuses, ça où ils se cachent. Et c'est à partir de là qu'ils bougent pour mener les opérations. Or, la plupart de nos forces de sécurité qui viennent parfois de l'Ouest ne connaissent pas très bien la zone et ceci rend en quelque sorte leur action un peu plus inefficace. Il y a aussi des problèmes d'ordre technologique parce que la guerre d'aujourd'hui, c'est aussi les renseignements aériens qui doivent être au point pour fournir les renseignements qu'il faut à temps et pour faut que les opérations, par exemple, s'il faut des avions, il faut les localiser, tout ça. Il y a des problèmes logistiques qui ont été observés.
Au-delà des opérations militaires, quelles autres mesures les autorités devraient-elles privilégier pour mieux protéger les populations civiles et affaiblir durablement les ADF?
Je pense qu'il faut investir plus ou privilégier les mesures non militaires. Notamment, par exemple, il faut couper les commerces illicites des ADF. Parce que les ADF sont souvent dans les business illicites. Ils sont dans les commerces transfrontaliers. Et c'est les moyens qu'ils tuent de cette business-là qu'ils arrivent encore à financer leur mouvement. Et donc, si on améliore la gouvernance, si on améliore la présence de l'État, il ne faut pas qu'on laisse des vides sécuritaires. Il est possible donc de réduire la capacité des ADF à long terme. C'est si ces actions-là qu'il faut insister, je pense, et ceci peut avoir l'impact effectivement de réduire la capacité opérationnelle des ADF.
Papi Kasereka, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de cet échange avec Papi Kasereka, analyste de crise et de conflit dans l'Est de la RDC. Il répondait aux questions de Martial Papi Moukeba. C'est ici que prend fin ce journal de 18h. Christian Makassine l'a présenté sous la coordination de Richard Junior Kamunga. Alain Goyana a assuré la mise en onde. Merci de faire confiance à Radio Okapi, ce journal est à réécouter en podcast sur notre site. Retrouvez également toute l'actualité en continu sur www.radiokapi.net et sur nos différentes plateformes numériques. Rendez-vous à 19h pour les derniers bulletins d'information de ce jeudi.